votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Sébastien Krebs. C'est pour décortiquer l'actualité de ce vendredi. Les grandes voix sont là autour de vous. Ève Roger, chef du service société d'Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste politique, Emmanuel Duteil, chef du service économie. Et tous les soirs, nous sommes à vos côtés en région. Ce soir, direction Lyon, avec notre correspondant Jean-Luc Boujon.
Bonsoir à tous les quatre.
Bonsoir à tous.
Merci d'être là, mais oui, vous êtes nombreux aujourd'hui. Merci d'être là pour les grandes voix. On va revenir d'abord sur cette visite houleuse aujourd'hui d'Emmanuel Macron à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Le président a attendu au tournant par les soignants. Écoutez.
C'est gentil la prime.
Laissez-moi finir.
C'est la revalorisation.
C'est ce que je suis en train de dire.
De combien et quand?
Oui. Que je suis en train de dire.
Et parce que ça fait longtemps que le gouvernement nous l'annonce.
Rajouter des conditions.
Non, mais
sur chaque promesse,
raison...
vous rajoutez des conditions.
Non, moi j'ai jamais fait de promesse.
On est désespérés, on ne croit plus en vous.
Moi, je n'ai jamais fait de promesse. Donc vous avez raison de ne pas avoir cru en moi là-dessus, parce que j'ai jamais fait de promesse là-dessus. Quand je fais des promesses, je les tiens.
Voilà, de vifs échanges. La crise est profonde à l'hôpital. Elle réapparaît, Ève Roger, aujourd'hui. Il y a cette colère. On le sentait depuis quelques jours. La colère remonte chez les soignants avec cette épidémie qui recule.
Oui, c'est vrai qu'il y a une place qui est faite pour cette contestation. Mais ce que je trouve important, et qu'on a peu dit, c'est qu'on a entendu l'aide-soignant, votre invité, qui disait les lits ferment. Mais pourquoi les lits ferment? Pas seulement pour faire des économies, les lits ferment parce qu'il n'y a plus de personnel à l'hôpital public. C'est-à-dire que les infirmières, les aides-soignantes, les manipulateurs radio, eh bien, ils quittent l'hôpital public, mais en masse, parce que justement les salaires sont très faibles.
1200 euros, nous disait l'aide-soignant qui était avec nous tout à l'heure.
Et vous le savez comme moi, quand on habite en Île-de-France, on ne peut pas être logé à Paris, alors que c'est vrai que l'excellence de l'hôpital public est en partie à la PHP et à 39 hôpitaux. Et si on n'habite pas, on est obligé d'habiter loin. Donc ça veut dire des temps de transport incroyablement longs, des enfants qu'on n'arrive pas à faire garder, des crèches où il n'y a pas de place. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est à la fois les gens qui sont là ont un salaire faible, mais il y a de plus en plus de gens qui s'en vont, qui vont dans le privé. La mort dans l'âme. Moi, j'ai fait des interviews en janvier-février, j'ai des infirmières qui disaient, mais ça nous fait de la peine de quitter l'hôpital public, sauf qu'on ne peut plus rester à ces postes-là parce qu'on ne gagne pas assez d'argent. Donc c'est bien ça qu'il faut comprendre. Il y a les professeurs de médecine qui les soutenaient. Il y en a un qui me disait, moi, j'ai plus de manipulateurs radio dans mon service, je suis obligée d'aller en face, de traverser, d'aller au labo privé en face faire les radios parce qu'il n'y a plus de manipulateurs radio, parce que les manipulateurs radio ne veulent plus travailler à l'hôpital public à cause des salaires. Donc c'est vrai qu'il faut de l'argent pour ceux qui sont là, mais il faut surtout de l'argent pour ceux qui sont partis et qui voudraient revenir. Et c'est vrai que Martin Hirsch, le patron de la PHP, parlait d'une parenthèse enchantée pendant cette période, parce qu'il y a aussi tout le privé qui est venu, tous les renforts, et donc il faudrait essayer de garder tous ces gens qui ont été tellement heureux, tellement fiers de faire partie de cette aventure.
Et cette semaine, ce qui a échauffé un peu les esprits, c'est que ce qu'on a entendu, c'est il y aura un 14 juillet dédié aux soignants, il y aura des médailles, il y aura des légions d'honneur. C'était quoi? C'était une maladresse? Ça a été très mal pris chez les soignants?
Bien sûr, parce que tous ont dit, on s'en fiche des médailles. Et même il y en a qui disent, même quand on applaudit, qu'ils s'en fichent aussi de ces applaudissements. Alors mais j'imagine que ce sentiment-là n'est pas forcément partagé par tous. Mais c'est vrai que la prise de conscience de ce qui se passe à l'intérieur de l'hôpital, elle est faible, surtout auprès du grand public. Parce que tout le monde adore l'hôpital quand on y est et quand on a été soigné. Après, qu'est-ce qui s'y passe? Il y a une forme d'indifférence. Mais vous verriez les locaux de certains hôpitaux les plus prestigieux de Paris, ça fait peur. Ça fait peur. Donc il y a même des budgets qui ont été créés pour réparer les murs, les plafonds. C'est incroyable.
Mickaël Darmon, je me tourne vers vous. Emmanuel Macron s'est mis en première ligne sur ce dossier aujourd'hui. Il y a même eu une forme de mea culpa dans sa bouche aujourd'hui sur ce dossier de l'hôpital.
Oui, tout d'abord, avant de passer à l'aspect critique de l'affaire, il faut évidemment reconnaître que, comme à son habitude, Emmanuel Macron va en première ligne, n'hésite pas à aller au contact. Il savait pertinemment qu'il serait accueilli de manière un peu musclée, ou en tout cas protestataire aujourd'hui, parce qu'ils ont bien compris, il a bien compris effectivement que la colère remontait, mais il a quand même voulu ce face-à-face. Et ce face-à-face va rester comme une des scènes emblématiques du quinquennat, qui vient cristalliser toute une ambiance, toute une approche, toute une je dirais un état d'esprit de l'opinion au-delà des personnels soignants. Ce que l'on a vu aujourd'hui, au fond, c'est assez paradoxal. Il a voulu faire un peu la boucle bouclée. Hein. Il a commencé, on se souvient, au tout début de la crise, ses déplacements à la Petite-Salpêtrière. Il avait été déjà interpellé par un neurologue qui l'avait interpellé vivement sur le plan hôpital. Au moment du déconfinement, il revient au même endroit et on a l'impression, c'est vrai, que alors qu'on doit se projeter officiellement vers un monde nouveau, eh bien, on revient au monde d'avant, c'est-à-dire rien n'a changé. La crise de l'hôpital est toujours aussi puissante, toujours aussi forte, même encore un peu plus après ce qui s'est passé. Et là, il y a la phrase, je dirais, marquante, claquante, on ne croit plus en vous. Cette phrase, elle va très certainement avoir une onde de choc à travers l'opinion, au moment où justement il essaye, lui, le président de la République, de trouver un nouveau projet pour embarquer tous les Français et pour renouer avec cette confiance. C'est ce qu'on nous explique partout, à tous les étages de l'exécutif.
Et Emmanuel Macron, le défi. Qui reconnaît que c'est très cruel pour lui, mais qu'il dit la stratégie qu'on avait, elle aurait été super il y a 10 ans. Et en fait, il se rend compte aujourd'hui que tout le plan hôpital qui a été proposé il y a quelques mois à peine, n'est pas du tout adapté au contexte.
Et en fait, il subit la justesse de son diagnostic. Souvenez-vous, depuis le début du mandat, il dit je dois régler des problèmes qui n'ont pas été depuis 30 ans. Donc ça tombe sur lui. Effectivement, la situation de l'hôpital n'est pas uniquement, il faut être honnête, n'est pas uniquement liée à son fait et à sa politique depuis son élection. Ça remonte bien avant. Mais c'est lui qui aujourd'hui est le président, c'est lui qui est en responsabilité. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs plans hôpital qui n'ont pas donc été satisfaisants. Tout le monde a en tête son annonce d'un plan massif pour l'hôpital qui ne laissera jamais tomber l'hôpital. Or, on a l'impression, et effectivement, il y a eu les maladresses que vous avez citées, notamment à propos de l'intention du 14 juillet, qui ont réveillé la colère. Et c'est ce qu'on évoquait en début du déconfinement. Les applaudissements allaient peut-être se tarir et la colère allait revenir. Et c'est ce à quoi on assiste.
Alors, il va falloir de l'argent. Comment, combien, on se pose la question dans un instant, à tout de suite.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs, entouré des grandes voix jusqu'à 19h.
Emmanuel Macron qui promet à l'hôpital de mettre fin à la paupérisation des soignants. On s'y arrête avec vous, Emmanuel Dutheil. Il va falloir de l'argent, il va en falloir probablement beaucoup. Je ne sais pas à combien on peut chiffrer un plan qui serait pertinent pour l'hôpital. On entendait les salaires tout à l'heure et la paupérisation que décrivait Ève Roger. Dans un premier temps, il y a cette prime qui va arriver là, pour les soignants qui ont été confrontés à l'épidémie. Évidemment, ça ne suffira pas.
Ça ne suffira pas, mais la visite d'aujourd'hui n'est sûrement pas anodine en termes de calendrier. Parce que c'est comme par hasard aujourd'hui que le décret qui valide la prime qui avait été annoncée il y a de cela maintenant plusieurs semaines pour les personnels soignants, le décret a enfin paru aujourd'hui au journal officiel. Et c'est vrai qu'on commençait à se dire depuis un bout de temps, mais quand est-ce que cette prime va arriver? Puisque si le décret ne sortait pas là dans les jours à venir, ça ne pouvait pas être versé sur la prime sur le salaire du mois de mai ou sur le salaire du mois de juin. Alors cette prime sera de 500 euros pour tous les membres du personnel hospitalier, de 1500 euros pour ceux qui ont travaillé dans les 40 départements les plus touchés. Par exemple, ça concerne toute l'Île-de-France, une grande partie de l'est du pays et une petite partie du nord du pays. Donc c'est une prime qui est bien évidemment symbolique pour ceux qui vont la toucher, mais on l'a bien entendu là dans les quelques expressions qu'on a pu entendre. Ça ne suffit pas parce que, comme l'expliquait extrêmement bien Ève Roger, il y a un malaise et le contre-coup va sûrement être encore beaucoup plus dur. Donc c'est là où derrière, il va falloir mettre des milliards d'euros. Mais tout n'est pas une question d'argent à l'hôpital, c'est qu'il va aussi falloir tout réorganiser, mieux organiser l'hôpital public. Et c'est une réforme qui va prendre des années à véritablement apporter ses premiers effets. Et c'est toute la complication de ce genre de réforme, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement a tout, sauf du temps pour la réussir.
Alors, on va suivre ça. Il y aura des concertations. Alors, Emmanuel Macron veut aller très vite. Il y aura une première concertation qui est annoncée la semaine prochaine. Et puis, il y a une première mobilisation des soignants qui est évoquée pour la mi-juin. Et notre invité tout à l'heure nous disait qu'il fallait appeler les Français qui ont applaudi les soignants aux fenêtres tous les soirs à 20h à rejoindre cette mobilisation. C'est un dossier évidemment qu'on va continuer à suivre. J'aimerais qu'on aille à Lyon rejoindre notre correspondant Jean-Luc Bougeon. Bonsoir Jean-Luc.
Bonsoir Sébastien.
Pour parler de ce premier week-end de déconfinement qui s'amorce ce soir avec des règles. Hein. Attention, on ne parcourt pas plus de 100 km, mais ça va quand même donner un petit peu d'air à tout le monde. Qu'est-ce qui est prévu? Comment ça se passe chez vous en région lyonnaise? Il y a beaucoup de contrôles?
Alors pour l'instant, oui, effectivement, il y a beaucoup de contrôles d'abord sur les routes parce que c'est une région touristique et c'est la belle saison. Donc contrôles qui vont être faits notamment sur les routes vers la montagne parce que tout ne sera pas possible. Et la montagne, effectivement, va réouvrir ses portes avec beaucoup d'activités qui vont être possibles. La randonnée est possible, l'alpinisme dans certaines limites, le ski de randonnée, l'escalade dans certaines limites. Donc la montagne revit, donc il y a des contrôles qui vont se faire au péage, aux sorties de Lyon et à l'arrivée vers les stations ou vers les montagnes, l'Isère, la Haute-Savoie, la Savoie. Il y aura aussi beaucoup de contrôles, notamment dans Lyon, par exemple dans les grandes métropoles, notamment Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, mais notamment à Lyon, où pour l'instant on n'a pas vu énormément de monde, hein, mais il y aura énormément de policiers qui vont faire des contrôles sur les berges du Rhône qui ont rouvert depuis lundi. Les berges du Rhône, c'est un petit peu, ça ressemble un peu au canal Saint-Martin, voilà. Donc évidemment, la peur ici, ça a été de voir les mêmes scènes. Ça n'a pas été le cas jusque-là. Non, ça n'a pas été le cas pour deux raisons. D'abord parce que c'était les premiers jours, donc on a vu des Lyonnais plutôt disciplinés, avec des masques, avec des distances relativement bien respectées. Sur ces berges du Rhône, normalement, il y a des restaurants, ceux-ci sont fermés. Il y a des péniches des restaurants, tout ça est fermé. Donc voilà, ça donne moins lieu à des regroupements. Et puis surtout, ces premiers jours de déconfinement ont été facilités par le temps qui a été exécrable. Ça peut aider parce que c'était l'été jusqu'à dimanche dernier et puis depuis mardi, il pleut, il fait froid, donc finalement ça ne donnait pas vraiment lieu à des regroupements. Et donc le test, il va être vraiment ce week-end parce qu'on annonce, alors pas des températures caniculaires, mais en tout cas une remontée des températures, du soleil, et puis c'est le week-end, donc les gens qui ont repris le travail vont être en repos, donc le test il va être vraiment là, donc mobilisation forte des policiers sur les berges du Rhône et puis au niveau du parc de la Tête d'Or aussi qui a rouvert ses portes.
Qui a rouvert, puisque vous êtes en zone verte, hein, en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Exactement.
Globalement, cette première semaine de déconfinement, vous décriviez des Lyonnais assez disciplinés. Dans les transports notamment, ça s'est aussi bien passé. Les distanciations peuvent être respectées.
Oui, d'autant qu'il n'y a pas eu énormément de monde dans les transports. C'était vraiment, il y avait très très peu de monde lundi. C'est légèrement monté en puissance dans les autres jours, mais les Lyonnais ont privilégié soit la voiture, il n'y a quand même pas eu de bouchons, soit le vélo, effectivement, soit la marche à pied. Mais on a vu que beaucoup de Lyonnais étaient restés en télétravail parce que franchement, il n'y avait pas énormément de monde. Dans les rues, il y avait du monde, mais sans que ce soit des affluences massives. Les distances étaient respectées. On a vu des queues devant les magasins, notamment les magasins de vêtements les premiers jours. Mais ces queues-là, sur les trottoirs, était plutôt dû à un filtrage à l'entrée, hein, avec des sens de circulation. Donc pour l'instant, les choses se passent plutôt pas mal. On croise les doigts, on touche du bois pour que ce soit le cas encore ce week-end. Oui.
Voilà, déconfinement serein donc à Lyon. Merci Jean-Luc Bougeon, vous restez avec nous. Les Grandes Voix aussi, on se retrouve dans une minute.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs, entouré des Grandes Voix jusqu'à 19h.
Avec les Grandes Voix, on échange sur toute l'actualité pour essayer de décrypter les derniers épisodes, bien sûr, dans cette épidémie. Ève Roger, on deux études aujourd'hui sur la fameuse hydroxychloroquine dont on parle beaucoup depuis les essais du professeur Raoult qui y croit beaucoup. Mais deux études qui disent ce soir que ça ne marche pas.
Disons que ces deux études qui sont sur des petits effectifs, hein, on est à 180 patients ou 150, mais avec deux groupes, hein, le fameux groupe témoin, où un groupe prend l'hydroxychloroquine et l'autre ne le prend pas. Et là, une étude française a testé l'hydroxychloroquine sur des patients plutôt en forme très grave, puisqu'ils sont hospitalisés pour une pneumonie, et puis regardait combien passaient en réanimation ou combien même décédaient. Et ils se sont rendus compte que quand on compare les deux groupes, entre ceux qui prenaient l'hydroxychloroquine et l'autre, c'était exactement la même chose. Et pour l'étude chinois, c'est un peu la même chose sur des formes plutôt légères ou moyennes, où là on regardait en combien de temps le virus disparaissait du corps au bout de 4 semaines, et c'était à peu près la même chose. La seule différence dans les deux cas, c'est qu'il y avait des effets indésirables cardiaques dans le groupe de ceux qui prenaient l'hydroxychloroquine. Alors, évidemment, c'est pas la première fois qu'on a des résultats d'études sur cette molécule, et c'est vrai qu'à chaque fois, ça crée une polémique, puisque Didier Raoult a déjà dit qu'il y avait des biais à cette étude, que justement qu'il y avait des petits effectifs, et qu'il ne faisait pas exactement ce que lui préconisait, c'est-à-dire associer l'hydroxychloroquine à ce fameux antibiotique qui s'appelle l'azithromycine. Et c'est vrai qu'on se dit, mais pourquoi il n'y a pas une étude qui fait exactement pareil que fait Didier Raoult?
Il n'y en a jamais eu
pouvoir enfin... Alors il y en a une qui est en cours à Montpellier, dont on n'a pas encore les résultats, mais c'est vrai qu'on se... Alors, pour tout vous dire, j'ai appelé l'investigateur de l'étude française cet après-midi, et je lui ai demandé demander, mais pourquoi justement on ne fait pas exactement la même étude, comme ça on en aurait enfin le cœur net. Et là, il m'a expliqué avec beaucoup de prudence, parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans une polémique, que le protocole du professeur Raoult était un peu changeant. Donc c'est un peu compliqué de se caler exactement sur ce que lui préconisait, et puis qu'ensuite chacun faisait son étude et qu'il fallait creuser son sillon sans forcément faire toujours référence à Didier Raoult. Mais c'est vrai que ces deux études-là dont on parle depuis ce matin, la française et la chinoise, sont publiées dans une revue scientifique, le British Medical Journal, alors que, vous savez, depuis le début, les protocoles Didier Raoult n'ont pas été publiés dans une revue scientifique, et puis il n'y a pas le groupe témoin, enfin bref, vous connaissez tous les biais de cette étude. Donc plus ça va, plus on avance, plus les études disent un peu toutes la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet spectaculaire et même pas un effet qu'on peut observer avec en plus ces effets indésirables. Donc l'épisode n'est pas clos, sachez seulement que le livre de
on n'arrive pas à mettre fin à ce débat, on
n'y arrivera jamais. Je crois qu'on n'y arrivera jamais, honnêtement je pense qu'il y aura toujours quelque chose pour empêcher qu'on puisse enfin avoir la vérité vraie. Tout ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui le livre que Didier Raoult a publié pendant le confinement est la première vente dans les livres essais et à la 17e place dans le classement de livres hebdo. Ce qui montre encore toujours l'adhésion forte de la population à cet homme qui, évidemment,
qui est devenu une star à Marseille.
Voilà, c'est ça. Mais pas seulement à Marseille, sinon il ne serait pas premier des ventes dans le classement livres hebdo. Je crois que c'est vraiment devenu une star parce que je pense qu'il incarne un espoir. Il incarne un espoir, il incarne quelque chose un peu aussi de rétif au pouvoir, à la bien-pensance, etc.
Et en étant à contre-courant. On va parler on va se projeter sur l'après, enfin espérons que ce soit l'après, juillet-août, l'été. Il y a eu cette déclaration d'Édouard Philippe hier, les Français pourront partir en France, en vacances. Emmanuel Dutheil, est-ce que ça a déclenché ce qu'on attend, c'est-à-dire une vague de réservation? Est-ce que les professionnels du tourisme attendent surtout une vague de réservation dès aujourd'hui? Est-ce que ça prend une réalité?
Je ne sais pas si vous en faites partie, mais traditionnellement, quand la SNCF ouvre ses ventes pour l'été, je peux dire qu'il y a un paquet de Français qui met son réveil aux alentours de 5h le matin pour être sûr d'être le premier à obtenir le petit prix ou un billet pour partir sur son lieu de vacances choisi. La SNCF a décidé de lancer ses ventes d'été aujourd'hui, c'était ce matin. Il n'y a pas une frénésie énorme. Alors si je vous donne quelques chiffres, vous allez pourtant vous dire, mais si, 120% de progression de fréquentation sur le site Oui SNCF. Les ventes qui ont été multipliées par 5, mais par rapport à la semaine dernière, il n'y avait rien la semaine dernière. On est pour vous donner une idée sur le double d'une journée d'un mois de mai normal. Donc vous voyez, par rapport à la frénésie que ça peut générer traditionnellement, on en est loin. Un élément que je trouve très intéressant dans les chiffres que nous ont communiqués la SNCF, c'est que les gens réservent 2-3 jours et principalement des week-ends pour le moment.
Il y a une prudence quand même.
C'est-à-dire que c'est mon interprétation. Pour le moment, les parents réservent uniquement pour emmener les enfants, pour être sûrs de s'en débarrasser cet été. Et puis ils vont penser ensuite à leurs vacances, puisque la SNCF s'attend notamment à un afflux pour cet été. Et quand on regarde le classement, ça se voit aussi. Alors c'est très classique, hein, mais là c'est une information qu'on peut vous révéler ce soir sur Europe 1. Les villes qui sont les plus recherchées sur le site Oui SNCF, Lyon, Bordeaux, Marseille et Lille, ce sont les quatre destinations les plus recherchées. Donc c'est en train de partir. Pour ceux qui auraient envie de passer leur week-end à chercher une destination de vacances ce week-end et à pourquoi pas chercher un train, sachez que vous pouvez y aller puisque vous êtes remboursé ou vos billets seront échangés et tout ça sans frais.
Ouais.
C'est des petits prix ou c'est très cher?
Alors non, je suis allé regarder moi plusieurs destinations, pour être très honnête, le Paris-Nantes, hein, puisque c'est là-bas qu'habitent mes parents. Tiens, je leur fais un petit coucou, ils seront contents. J'ai regardé par rapport au prix traditionnel que je peux payer pour un Paris-Nantes. C'est pas vraiment des petits prix, mais on est vraiment sur une moyenne plutôt basse. Ouais. Mais il faut voir qu'il n'y a pas beaucoup de place, parce qu'il y aura certes a priori tous les trains là à la SNCF, mais il n'y a qu'une place sur deux. Ouais. Pour l'instant, sauf si la législation devait évoluer.
Si ça bougeait d'ici juillet, la SNCF vendrait une deuxième vague de billets pour remplir les trains. Elle va aller à Nantes, je pense. Peut-être un mot de Lyon pour finir, Jean-Luc Bougeon, puisque Lyon est cité parmi les villes qui sont recherchées. Comment ces annonces ont été reçues chez vous, chez les hôteliers, les restaurateurs à Lyon, les annonces d'hier?
Oui, c'est un espoir, mais qui ne dissipe pas les inquiétudes, parce que pour l'instant, tout est fermé. Il suffit de se balader dans le quartier Saint-Jean, ce qu'on appelle le Vieux Lyon, pour voir ce quartier d'habitude rempli de tous les touristes vénitiens, les touristes français, les touristes étrangers. Aujourd'hui, c'est vide. C'est des restaurants à perte de vue, c'est les fameux bouchons lyonnais qui sont là dans ce quartier Renaissance, hein, avec les couleurs, les ocres jaunes, les ocres rouges, un petit peu ce paysage un peu florentin. Il n'y a personne en ce moment. Et donc, il y a une vraie inquiétude des professionnels, parce qu'on nous annonce une réouverture pour le 2 juin, on nous parle de juillet ou d'août, mais en attendant, il reste 2 mois, et si c'est une réouverture seulement le 2 juin, ce qui n'est pas garanti, ça crée beaucoup d'inquiétude.
Il faudra voir aussi dans quelles conditions cette réouverture pourra se faire pour les restaurants. Ça...
Exactement, avec beaucoup de distance, donc ça ne va pas donner à plein tout de suite. Oui.
Merci beaucoup Jean-Luc Bougeon d'avoir été avec nous, correspondant d'Europe 1 à Lyon, Ève Roger, chef du service Société, Emmanuel Duteil, chef du service Éco, et Mickaël Darmon, éditorialiste politique. Mickaël, on vous retrouve dimanche, le grand rendez-vous à 10h avec les Échos. Vous recevrez le ministre de la Ville et du Logement, Julien de Normandie. Merci les grandes voix, bon week-end.
Bon week-end.
Merci.
Bon week-end, au revoir, merci.